petit loup.
L'EM, l'émission, l'émission, sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Dans cette première partie de l'EM, on découvre l'association La Balise à Crozon. Quand on a un proche malade ou qui vieillit ou un enfant atteint d'un handicap à la naissance ou après un accident, on devient une aidante ou un aidant. Ça peut prendre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie et ça arrive bien plus souvent que l'on ne le croit. C'est pour ça que l'association La Balise, le repère des aidants en presqu'île de Crozon et Aulne-Maritime, est si précieuse. Elle propose des rendez-vous réservés à celles et ceux qui aident. Véronique Museau a reçu deux de ses membres actifs de La Balise, donc Gaël Rioux et Frédéric.
Bonjour.
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 Pouvez-vous déjà nous raconter un peu l'histoire de cette association La Balise, de comment est-elle née, quand?
Alors, La Balise est née il y a bientôt 3 ans, mais c'est un projet qui est en tête déjà depuis plusieurs années. Et c'est né suite à mon expérience en particulier d'infirmière libérale, où je voyais les aidants s'épuiser. Et qu'il n'y avait absolument aucune proposition pour eux. Et souvent, eux négligeaient aussi leur situation et leur fatigue.
Donc vous étiez toute seule au départ ou il y avait déjà des gens Voilà, c'était un constat après voilà. De là alors, à passer à
l'action. Ensuite, j'ai rencontré Julie Boulard lors d'une inauguration. Et de fil en aiguille, on en a parlé et ça lui parlait aussi. Et en fait, c'est le fait de rencontrer Julie, qui était très motivée aussi pour faire quelque chose pour les aidants, qui a enclenché vraiment la création de l'association. Et ensuite, Nathalie Capet nous a rejoint et Frédéric, qui est présent aujourd'hui.
Alors Frédéric, pourquoi vous êtes venu rejoindre cette association La Balise?
Moi, je suis le père d'une petite fille qui est autiste et je suis arrivé sur la presqu'île il y a à peu près 5 ans et ça m'a pris 3 ans pour trouver une place pour ma fille.
Elle a des troubles prononcés, pas légers, prononcés. C'est quoi son degré d'autonomie?
Disons que sur l'échelle, elle est à 12, en sachant que c'est sur de 1 à 14 ou 17, je ne sais plus. Bon, elle est à 12. Oui, c'est prononcé, elle ne parle pas. Elle n'est pas scolarisée, donc j'étais obligé de la garder à domicile. Maintenant elle est prise dans un établissement, donc j'ai profité après du temps qui était libre pour venir renforcer l'équipe de La Balise. Mais ça c'est juste une démarche personnelle quoi. Je voulais en gros que les nouveaux aidants passe pas par ce que je suis passé.
Et justement, voilà. C'était quoi alors, par exemple, quand on dit ils sont épuisés, ou qu'est-ce que ça veut dire concrètement?
Déjà, on a des difficultés avec son travail, ça c'est certain. On va être obligé de réduire la voilure. Donc là où vous travaillez 8 heures par jour, si ça se passe bien, si vous avez un patron ouvert d'esprit, il va peut-être pouvoir, moduler votre temps de travail ou choses comme ça, mais arriver à un moment où vous serez bien obligé d'arrêter de travailler. Quoi.
Oui, parce que vous, c'était un travail que vous deviez faire en présentiel, comme on dit maintenant.
Oui.
Ah oui.
Oui, oui. Oui,
parce que c'est ça aussi, ça dépend. Puis le télétravail était moins développé aussi à l'époque. Mais bon.
Après, même du télétravail chez moi, avec la pathologie qu'a ma fille, j'aurais peut-être pu faire 4 heures par jour, pas plus. Quoi. Il faut la surveiller constamment. Elle est dangereuse pour elle-même. Quoi, voilà. Donc il fallait que je... Enfin, ça prend énormément de concentration, c'est du travail H24, hein. Il faut savoir qu'elle fait pas ses nuits, elle se réveille quand elle fait des crises ou quoi, à peu près vers 1h du matin, 2h, donc après ça nous prend, quand tout va bien, une demi-heure pour la calmer et la recoucher, et si ça se passe mal, entre 1h et 2h. Donc voilà.
Et vous êtes à 2 parents, hein,
oui.
Présents. Quoi.
Oui, oui, oui. En plus, il faut savoir que, voilà, dans les statistiques, on est à peine 6% des papas à être restés avec leur femme.
C'est ça, et souvent, c'est des
C'est les mamans célibataires, oui. Ouais. C'est les mamans célibataires qui doivent gérer et le travail et la garde de l'enfant, quoi.
Il y a des frères et sœurs, peut-être?
Non,
aussi,
aucune. Non. C'était la première et... Et voilà, donc après, on n'a pas essayé de réitérer l'expérience. C'était déjà assez compliqué comme ça. Voilà. Mais Elle est prise en charge maintenant. Mais moi, j'ai eu la chance d'avoir une enfant assez calme, quoi. Voilà. Donc, même si c'est compliqué pour elle, quand je dis elle est dangereuse pour elle, elle ne sait pas traverser une rue ou quoi que ce soit. Elle va même s'amuser à jouer au milieu. Donc oui, c'est voilà. Enfin, les situations sont assez compliquées, quoi. Mais c'est tout. Après, moi, c'était surtout le fait que quand on arrive, vous découvrez que vous avez un enfant, on vous annonce que vous avez un enfant qui a une problématique, qui va être handicapé toute sa vie. Et ben, il faut se battre pour savoir ce que c'est comme maladie.
Oui, le diagnostic peut être long.
Voilà, ouais. S'il est prononcé, parce que moi, ma fille, elle a 18 ans, enfin, elle va avoir 18 ans et on l'a diagnostiqué autiste il y a 4-5 mois. Voilà. Oui. En fait, on ne peut pas diagnostiquer un enfant autiste avant l'âge de 5 ans. Ça, c'est la théorie, c'est français. Et nous, après, de passage en IME, d'établissement et tout ça, à la fin, on a perdu un peu le fil sur ça. Et là, dans le nouvel établissement où aller, on nous a proposé de refaire un diagnostic, et puis c'est ce qu'on a fait. Donc, ça nous ouvre d'autres portes pour elle quand elle sera plus grande. Ça nous enferme certaines, mais bon, ça, c'est le cheminement. Donc,
oui, il y avait quand même déjà une reconnaissance du handicap, de toute façon.
Oui. Mais sa pathologie, moi, je sais qu'on a vraiment mis un nom pur et dur dessus quand elle avait 3 ans. Donc, c'est de l'angoisse tout le temps. C'est des problèmes. Comme elle faisait énormément de crises, elle faisait à peu près une vingtaine de crises par jour d'épilepsie. Donc elle faisait une crise, elle dormait.
D'épilepsie en plus, quoi.
Oui. Donc c'était des passages par l'hôpital de temps en temps, donc c'était assez stressant, on va dire. Plus le boulot à côté, donc c'était pas évident. Donc à la fin, vous êtes un peu obligé de force d'arrêter de travailler, quoi. Donc voilà. Et après, bon, vous prenez ce qu'il y a parce que les prises en charge, c'est souvent de 9h à 16h ou à 17h, donc ça correspond plus à des horaires logique de travail. Et tout ça, en fait, ça s'accumule. On a eu de la chance de rester ensemble avec ma femme. Donc, on s'épaule. Quand l'un perdait un peu l'équilibre, comme on dit, l'autre l'a redressé. Et donc, voilà, en venant à la balise, moi, je voulais que les gens évitent ce genre de problème-là, qu'ils comprennent, qu'ils soient conscients que ça va être compliqué, mais que c'est pas désespéré, quoi. Il y a une éclaircie au bout de temps en temps, faut pas croire, quoi. Donc voilà, c'était pour ça. Ma démarche était plus militante et il y a du boulot en France de ce côté-là, quoi.
Gaëlle Rioux, les aidantes et les aidants que vous avez croisés dans votre carrière d'infirmière libérale, qu'est-ce que c'était être aidant de ce que vous en avez vu en tout cas?
Oui, alors les situations sont vraiment très, très différentes. Chaque situation est particulière. Alors, personnellement, je me suis plus occupée de personnes âgées, mais c'est pas un choix, hein. C'est comme ça, c'est le territoire qui veut ça. On est un territoire.
Et la presqu'île, en l'occurrence.
Voilà, des personnes âgées. Et puis, même là où j'ai travaillé aussi dans des associations de soins à domicile pour personnes âgées et handicapées. Donc, de fait, j'ai rencontré plutôt des situations de personnes âgées.
Donc là, vous parlez des personnes aidées, c'est ça, plutôt? Et les personnes aidantes, alors? Quel est le profil?
Eh bien, c'est souvent le conjoint qui est aussi âgé et qui, du coup, souvent, la conséquence est de négliger sa propre santé. Et dans quand même beaucoup de situations, j'ai vu l'aidant partir avant la personne aidée. Le territoire en plus est compliqué puisqu'il y a la distance pour prendre des rendez-vous,
ce qui fait que ça n'aide pas. Voilà. Les rendez-vous médicaux, notamment. Ouais.
Les agendas qui sont quand même très très remplis par les rendez-vous de la personne aidée aussi. Donc ça complique le fait de pouvoir prendre soin de soi. Et aussi, ce que j'ai constaté, c'est un peu je ne dirais pas la honte, mais plutôt la pudeur de se dire « non, je ne vais pas demander de l'aide ». De ne pas montrer qu'en fait, parfois, c'est difficile et qu'on a besoin d'aide. Il y a aussi un petit peu cette difficulté qui fait que la démarche est difficile de venir vers les associations qui existent déjà.
Frédéric, c'était votre cas ou vous n'aspiriez qu'à trouver une association, s'il y en avait une?
Non. Déjà, moi, à mon cas, je suis le père de ma fille. À la base. Et donc, je ne me voyais pas en tant qu'aidant. Ça, c'est à force de côtoyer après les associations où on apprend qu'on devient aidant. À la base, on est soit le père, soit le fils, soit le mari ou l'épouse. Donc, on trouve ça logique, quoi. Mais en fait, ça ne l'est pas. Après, c'était une démarche personnelle, mais à force de côtoyer le monde du handicap, quoi. On s'aperçoit que les gens ignorent leur situation. Mmh. Et puis moi, oui, quand je suis arrivé sur la presqu'île, la seule conversation que j'avais, c'était avec ma boulangère. Donc, c'était 5-10 minutes par jour et pas plus, quoi.
Mais si vous aviez eu moyen d'être aidé de manière évidente, vous pensez que vous n'auriez pas eu de mal à faire la démarche ?
Ça aurait été plus simple. Disons que déjà quand on a, pour ma part, pour une personne handicapée, on sort un peu du chemin tout tracé des familles, des familles où les personnes ne sont pas malades ou quoi. Mmh. Et donc là, quand on parle des prises en charge des rendez-vous. Alors là, il faut voir que c'est sur Brest ou Quimper, donc une heure aller, une heure retour, plus une heure de rendez-vous, vous êtes déjà une demi-journée, quoi. Et ça, vous êtes bien obligé d'accompagner votre enfant ou la personne que vous aimez, et ça vous prend une demi-journée. Donc sur votre temps de travail, quand ça vous arrive deux fois par mois ou trois fois par mois, les choses se compliquent, quoi, au niveau du travail, je parle. Donc il y a ça. Ensuite... Ouais, enfin moi, est-ce que ça m'aurait aidé d'avoir une association
pour faire des pauses, par exemple.
Oui, ça m'aurait un peu aidé. Disons, ça m'aurait peut-être reboosté dans des moments où je perdais un peu pied. Hein. Il y a entre les papiers, les crises de ma fille, savoir comment on gère, quel professionnel pourrait m'aider, quel professionnel j'ai sur mon territoire à portée de main qui pourrait m'aider. Ça m'aurait aidé. Maintenant, c'est fait. Mais c'est là où je veux en venir, où moi, c'est un côté un peu plus militant, où je veux que ça se passe mieux pour les nouveaux parents, quoi. Donc, et les nouveaux aidants.
Gaëlle, quand vous avez créé l'association La Balise, c'était quoi les objectifs au départ ? Enfin, qu'est-ce que vous vouliez mettre en place ? Ça a peut-être changé entre les débuts et puis maintenant.
Alors, il y avait surtout... Un souhait que les aidants se reconnaissent en tant qu'aidants. Et là, du coup, je reviens à ce que tu disais. Effectivement, ça paraît naturel d'aider son proche, la personne qu'on aime, son enfant, son parent, même dans les fratries, hein, où il y a un enfant handicapé ou malade. Eh bien, pour l'aîné ou les autres enfants, c'est naturel, finalement, d'épauler ses parents, d'aider son frère, sa sœur. Ce désir d'information, d'informer les personnes qu'ils sont dans cette situation d'aidant et qu'il y a des particularités, qu'on peut tout à fait être fatigué et dire qu'on en a ras-le-bol de s'occuper.
On a le droit, culpabilité en fait.
Et que c'est normal en fait d'être fatigué et d'en avoir un petit peu assez de
on
temps en temps.
On a le droit mais on ne peut pas.
Et donc c'est de pouvoir avoir un lieu ou des personnes à qui on peut le dire sans avoir peur d'être jugé, pouvoir trouver quelques solutions, pouvoir aussi en parler avec d'autres personnes qui vivent cette situation-là et de s'entraider aussi. Puisque souvent, ce qu'on a remarqué, c'est que quand même, ces personnes sont un peu des experts, trouvent des astuces incroyables, même au niveau administratif. Toi, tu sais comment, par qui passer pour avoir les informations et faire passer les dossiers. Donc, c'était vraiment ça, l'intérêt de cette association. Donc, on a commencé par des après-midi des aidants.
Donc, des échanges, quoi.
Voilà, simplement des échanges où on a pu recueillir les besoins. Et ensuite, mettre en place des ateliers. Et on a commencé par un atelier, par un groupe de parole, où justement, là, les personnes pouvaient déposer dans un endroit confidentiel ce qu'ils ont sur le cœur et leurs difficultés. Mm-hmm. Et puis, les ateliers se sont étoffés au fur et à mesure.
Et au cours des ateliers, il y avait uniquement des aidantes et des aidants, ou des professionnels de santé aussi ? Enfin, vous, en l'occurrence, Gaëlle, vous êtes infirmière, mais sinon...
Uniquement pour les aidants et aidantes, et l'atelier est animé par une psychologue.
Oui, il y a quand même une psychologue. Oui. Ouais, c'est mieux. Enfin...
C'est indispensable.
Pourquoi ? Oui.
Eh bien, pour pouvoir recueillir ces paroles et pouvoir mettre les mots aussi dessus, pouvoir avoir une écoute professionnelle. Oui, ça paraît indispensable, puisque lors de ces groupes de parole, il y a quand même des choses très difficiles qui sont dites. Et voilà, il faut avoir une certaine formation, une certaine habitude pour pouvoir accueillir ces mots et ces situations.
Frédéric, vous participez à ces groupes de parole ou en tant qu'aidant
Oui, moi je suis, j'en ai fait quelques-uns. C'était plus pour apporter mon témoignage, quoi, parce que j'avais déjà fait le travail sur moi-même à l'époque. Mais beaucoup arrivent et ne parlent pas, par exemple, vont écouter. Il leur faut un certain temps d'adaptation pour pouvoir à la fin prendre la parole et commencer à faire, c'est pas une thérapie, mais un peu quoi, à aider à avancer, à prendre conscience qu'ils sont devenus aidants. Et ensuite, dire, bon, bah, je suis pas seul, sur la presqu'île, il y a une association qui est là, qui essaye de nous aider, donc il faut que je m'appuie sur elle pour justement... Parce qu'un bon aidant, c'est pas hyper compliqué, hein. Un bon aidant, il faut qu'il soit en bonne santé, donc, et il sera un bon aidant. Vous voilà. Êtes un aidant qui dormait mal, qui s'oublie un peu, vous allez pas être un vrai aidant longtemps, quoi, donc... Donc tout ça, nous on essaye de mettre ça en place. Maintenant on a de l'art thérapie, on a de la sophrologie, on a pas mal de trucs qui se mettent en place.
Ouais, vous avez étoffé les ateliers, hein, mm-hmm. C'est ça.
Oui.
Ouais. Donc ouais, allez-y Gaëlle. Ouais,
alors sur... donc de l'art thérapie.
En gros, ça consiste en quoi l'art thérapie
Alors l'art thérapie, ça permet. C'est compliqué d'expliquer en fait l'art thérapie puisque se passe tellement de choses pendant l'art thérapie. En fait, c'est de pouvoir créer quelque chose avec ce qu'on a à l'intérieur.
Oui, c'est une activité créative, quoi.
Oui. Ouais.
Mais ça peut être quoi, de la peinture, de la sculpture, enfin,
du dessin, l'écrit.
Le mouvement. Aussi. Camille, elle utilise beaucoup le mouvement, le déplacement dans l'espace.
Ouais, de la danse, en fait.
Oui, l'expression corporelle, comme on va dire. Ça paraît un peu lunaire ce qu'on dit, mais...
Bah c'est connu maintenant, l'art thérapie.
Oui, mais pour certains, ça aide beaucoup.
Oui, c'est ça.
Voilà.
C'est pratiqué à l'hôpital, hein, je crois.
Oui.
À l'hôpital.
Et ça permet vraiment de lâcher ce qu'on, retient.
Les gens qui n'arrivent pas à en parler arrivent à l'exprimer autrement, quoi. Donc, tous les moyens sont bons pour pouvoir enfin se rendre compte qu'on est devenu aidant et avancer aussi dans son parcours, quoi. C'est ça aussi.
Et ça dure combien de temps alors, une séance d'un atelier d'art thérapie?
Une heure, je crois.
Une heure et demie.
Alors, art thérapie, sophrologie aussi, c'est ça?
Voilà, sophrologie.
Alors ça, c'est quoi pour les gens qui ne savent pas ce que c'est?
Alors, la sophrologie, c'est une pratique méditative qui permet de prendre du temps pour soi, de se relaxer et prendre de la distance aussi avec la situation et renforcer ce qui va bien, reprendre confiance en soi.
Donc pareil, il y a une professionnelle de la sophrologie qui vient.
Voilà, il y a Lydie qui intervient et je la remplace de temps en temps parce que je suis aussi sophrologue. Et elle intervient sur Telgruc et Le Fou.
Oui, parce que l'art thérapie, c'est uniquement sur Telgruc, c'est ça? Enfin, c'est à quel endroit?
C'est à l'Envéoc, l'art thérapie.
Oui, vous avez essayé de répartir les ateliers sur le territoire. Comment vous procédez?
Voilà. On essaye de répartir. Alors, on essaye d'avoir, d'avoir une proposition par semaine et de la répartir sur tout le territoire de la presqu'île de Crozon et Aulne-Maritime.
Depuis peu, voilà, parce qu'en fait, c'est vrai que c'était presqu'île au départ. Et puis, donc, quand c'est Aulne-Maritime, c'est toujours au pôle santé du Fou, c'est ça?
Voilà, pour le moment, c'est juste au pôle santé du Fou.
C'est déjà pas mal.
Oui, c'est déjà bien. Où là, il y a un après-midi des aidants tous les deux mois et puis de la sophrologie toutes les deux semaines.
Et qu'est-ce qu'il y a d'autre alors, sinon sophrologie, art thérapie, échange et
On propose des séances de réflexologie plantaire. Là, c'est en individuel, ça peut être même à domicile. Sinon, c'est au cabinet de Julie à Argol. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
On a fait une sortie en bateau.
Oui, on fait des sorties de temps en temps.
Donc il y a les ateliers, mais voilà, il y a autre chose, il y a une activité associative. On est bon pour les ateliers, non? Vous avez donné tous les
j'ai
types d'ateliers.
J'ai l'impression d'oublier quelque chose. Mais
Allez-y, hein, je couperai. Hein.
Mais je crois que c'est
art thérapie, sophrologie.
Groupe de parole, art thérapie, sophrologie, après-midi des aidants, c'est tout bon.
Et donc il y a une vie associative, Frédéric, en plus.
Oui, Gaëlle avait réussi à organiser une sortie en bateau avec le Grand Bleu, qui a énormément plu aux aidants.
Donc c'était les aidants tout seuls ou est-ce que c'était la personne aidée avec?
C'est une association que pour les aidants.
Ah oui, ça c'est important aussi.
Oui, parce qu'il existe plein d'associations pour les aider. Pour les aidants, Dans le Finistère, il y a l'AF aussi, l'Association des aidants du familiaux du Finistère, qui est sur Brest et Rieck-sur-Belon. Ensuite, il y a nous, et ça s'arrête là. Pour les aidants uniquement, je parle. Donc, nous, on voulait que ce soit que pour les aidants, parce que, de mon expérience aussi, quand vous êtes avec les dés, vous avez toujours un œil dessus.
Ouais.
Et vous vous lâchez jamais, quoi. Donc, vous êtes toujours en éveil pour savoir si elle est bien prise en charge, si, si elle ne fait pas de bêtises. Ou... Enfin, donc, vous n'êtes jamais dans le lâcher-prise. Et ce qui vous requinque, en gros, c'est ce moment-là où vous allez lâcher prise, penser à autre chose que le handicap. Voilà. Ou à votre fille. Ou à vos... Donc, voilà. Et donc, la sortie en bateau, c'était 3 heures, je crois, c'est ça ?
Oui, c'était tout un après-midi. Mmh.
Donc... C'est compliqué à mettre en place parce que certains aidants disent ben 3 heures c'est pas ouais, possible c'est long, moi ouais. avec avec la personne que j'aide et puis on a des ateliers poterie aussi qui vont se mettre en place.
Voilà, il y a eu une première visite d'atelier de poterie qui a beaucoup plu et du coup là ben, c'est la semaine prochaine l'atelier poterie avec Marie Gravier, là ça va se passer à Crozon. On va avoir un atelier naturopathie aussi. Là, on n'a pas encore le lieu. Je cherche une salle pour accueillir cet atelier au mois de novembre. Il va y avoir aussi un atelier manutention qui était très demandé pour savoir comment aider la personne à se...
Ah oui, pratique, ouais. Voilà. Pour ouais. porter les gens, c'est ça
voilà.
Ah oui, oui, mmh. Là, c'est...
La principale inquiétude qu'avaient nos aidants, c'était... Comment je relève mon aidé s'il est par terre ou quoi ? Parce qu'ils sont assez âgés quand même.
Ouais.
Donc c'était ça.
Sans se faire mal aussi. Ouais.
Oui, oui, oui. Oui
pour sans lui faire mal, mais sans se faire mal aussi.
Voilà. Ouais, ça, c'est des ateliers qu'on veut mettre en place. On avait parlé aussi des gestes de premier secours, des choses comme ça, mais ça, c'est plus. On est encore dans la réflexion.
Non, manutention, non c'est au mois d'octobre.
Oui, pour la manutention et pour les gestes de premier secours.
Oui, vous voilà. pourriez passer un brevet avec les pompiers aussi.
Sans passer au moins d'avoir des mmh. séances de comment ça s'appelle une soirée à thème quoi, voilà. Mmh. Et sinon, on avait fait le premier atelier qu'on avait fait comme ça, c'était des balades sur le Cap de la Chèvre avec un guide conférencier qui avait. Alors là, tout le monde ça. Il racontait l'histoire de la presqu'île et tout. Même si vous êtes du coin, vous êtes obligé de. Vous êtes absorbé par ce qu'il raconte, donc ça a permis aux gens de s'évader. ça a été court, quoi. On a trouvé que 2 heures, je crois, ça avait été court. Donc voilà, tout le monde en redemandait. Mais après, bon, il y a le temps, il y a tout ça.
Vous pouvez pas encore organiser des repas, par exemple, entre vous, quoi.
Un repas, on n'a pas encore fait. On a fait aussi une visite de la tour Vauban. Mmh.
Voilà, donc plutôt des sorties culturelles ou
voilà, plutôt ouais. sorties culturelles. On a visité aussi les vieux métiers aussi, ça avait beaucoup
Musée des vieux métiers, Argol. Ouais.
Et là, on n'a pas encore les dates, mais il va y avoir aussi un cycle d'ateliers sur la communication thérapeutique. Donc, c'est comment bien communiquer avec la personne aidée quand on est fatigué, énervé éviter de culpabiliser aussi quand voilà, on s'est un peu énervé et qu'on se dit « mince ». Je ne suis pas un bon aidant, je perds patience, etc. Donc il va y avoir un cycle de 5 séances sur la communication thérapeutique.
Vous avez donc plein de projets à la balise. Est-ce que vous êtes suffisamment nombreux pour mener à bien toutes vos actions ? Est-ce que vous avez un appel à lancer à ce niveau-là ?
On est ouvert à tous les bénévoles. Hein.
Oui.
Plus on est, plus on rit. Non, oui, oui, on a besoin de bénévoles. Mais c'est toutes les associations de la presqu'île en général qui ont besoin de bénévoles. Mais oui, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Oui.
Bah, sachant que tôt ou tard, chacune ou chacun d'entre nous deviendra aidante ou aidant dans sa vie. Enfin, pratiquement. Enfin, à moins d'être seul au monde, on sera aidant tôt ou tard. Voilà. Mmh. Donc, ça peut faire une motivation pour
au
venir.
Cours d'une vie. Là, c'est sûr que on va être aidant. La plupart des personnes vont être aidants à un moment donné.
Mmh. Est-ce que vous avez d'autres ressources à signaler pour les aidants aidantes? Des ressources en dehors de l'association qui sont pratiques, utiles.
Oui, là sur la presqu'île, il y a l'ULAMIR, le centre social qui est quand même une référence. Il y a l'association La Soupape aussi qui fait aussi des choses pour les aidants. D'ailleurs, en partenariat avec l'ULAMIR, il y a le café aidant aidé. Non, 2 mercredis par mois, les jours de foire à Crozon. Ils ont une ligne d'écoute aussi, donc qui est importante. Et puis, il y a l'association, là c'est plus spécifique, Joanne d'Amour, qui s'occupe des personnes qui ont des enfants autistes ou troubles 10. Il y a la Ligue contre le cancer aussi, qui fait des choses, ou en tout cas qui repère les aidants qui sont en difficulté. Il y a quoi d'autre ? En fait, il y a un tissu associatif très important sur la presqu'île, j'imagine... Aulne-Maritime aussi. Et en fait, toutes les associations sont assez vigilantes quand même de la situation de leurs adhérents et peuvent faire appel à nous sans problème quand il y a oui. une situation.
Là, il va y avoir un site internet qui va se mettre en place qui s'appelle Care Aidant, qui a été en gros conduit par les Jeunets d'Or et qui recense en fait toutes les associations du Finistère qui sont là pour aider les aidants. Et il va être mis en place le 6 octobre. Il y aura pour ça une conférence avec plusieurs débats, une sur le sommeil, je ne sais plus quoi, l'alimentation et tout ça. C'est à l'Opérette. C'est le 6 octobre de 9h à 14h. Et c'est un site qui va nous aider au moins à trouver certaines solutions. Parce que dedans, il y a toutes les associations qui vont être... Enfin, on va essayer de recenser toutes les associations. Il y aura des solutions pour les vacances, des solutions pour l'accompagnement, des solutions pour l'administratif. Voilà. Donc, c'est un outil qui va être... moi, je sais que si je l'avais eu, j'aurais moins crisé. Quoi.
Ouais, sans doute. Ouais. Bien, on va vous remercier beaucoup et on va souhaiter une longue vie à la balise, le repère des aidants. On annoncera au fur et à mesure les ateliers quand vous en organisez.
Merci beaucoup.
Merci.
La balise, le repère des aidants, est dotée d'une page Facebook pour connaître les dates des ateliers et des groupes de parole qu'elle propose en presqu'île de Crozon et Aulne-Maritime.
L'EM, l'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Et pour débuter cette...